Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
La croquette, c'est un bout de shit.
Ouais.
L'herbe, la beuh ou le weed.
La weed.
La weed.
La weed.
C'est fait à partir des feuilles de la plante.
En fait, c'est la fleur.
Ah oui, la fleur. Mmh. La fleur. Je fume la fleur, qui a un taux de THC d'environ 15 à 20%.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé. L'extrait que vous venez d'entendre provient d'un épisode de Plus belle la vie, diffusé début mars. Dans cet épisode, Thomas donne un cours explicatif et pratique sur le cannabis à sa belle-mère. Si l'épisode a fait grand bruit sur internet, c'est que le cannabis agite fréquemment le débat public et préoccupe également l'État français. Et ça tombe bien puisque Enjeux de santé est allé à la rencontre de Corinne Daniel et Philippe Leferrand, respectivement psychologue et psychiatre au pôle addiction de l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes, pour leur poser des questions sur cette drogue. Et commençons par une petite définition de ce qu'est le cannabis.
Le cannabis, c'est une substance psychotrope. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de substances qui ont été désignées par des commissions internationales comme étant des drogues, donc des psychotropes interdits. Donc le cannabis fait partie de cette liste de substances interdites. Donc en tant que substance interdite, elle est considérée comme une drogue. Donc par définition, une drogue, c'est une substance psychotrope qui agit sur le cerveau. Donc il y a des drogues légales, comme l'alcool et certains médicaments psychotropes. Et puis il y a des drogues illégales, comme le cannabis, l'héroïne, etc.
Et sous quelle forme peut-on le trouver, le cannabis ?
Je pense que la plupart des gens savent sous quelle forme ça se présente. Donc classiquement, il y a ce qu'on appelle l'herbe. Donc ce sont des fleurs de cannabis, les sommités florifères, comme on dit. Enfin, c'est la dénomination officielle. Après, il y a le hashish, qui est une préparation, en fait, à partir des fleurs. Donc ça se présente sous une forme de pâte, un petit peu, donc les barrettes bien connues. Et puis une troisième forme moins connue, qui est l'huile de cannabis, qui est plutôt en désuétude en ce moment, mais qui était bien connue autrefois. Donc suivant les différentes formes, en fait, il y a des concentrations très très variables en substances actives. Donc la substance active la plus connue du cannabis, c'est le THC. Et c'est cette substance qui est dans le cannabis qui a des actions psychotropes recherchées par les consommateurs. Donc ces trois formes de cannabis ont des concentrations très variables. Classiquement, l'herbe est beaucoup moins concentrée que le hashish, qui est moins concentré que l'huile de cannabis. Mais ça, c'est en théorie, en fait, parce qu'en pratique, il y a des formes de modifier des OGM, en quelque sorte, de cannabis. Donc l'herbe est de plus en plus concentrée. Et inversement, le hashish peut être peu concentré en fonction des coupages proposés par les différents vendeurs. Et puis l'huile, bon, ça reste l'huile, mais ça reste quand même très, très marginal.
Oui, la concentration de THC peut varier dans différentes plantes.
La concentration peut être à la limite du placebo. C'est-à-dire que le cannabis qui poussait il y a encore 20 ans dans les champs en Bretagne était à la limite du placebo. C'est-à-dire qu'il y avait 3-4% de concentration de THC. Maintenant, on peut monter à 10, voire 20%. Pareil pour le hashish, en fonction du fait qu'il soit coupé ou non, les concentrations sont très très variables.
Mais le THC, en fait, qu'est-ce que c'est ?
Le THC, c'est une molécule assez complexe qui agit sur le cerveau. Une drogue, par définition, agit sur le cerveau. Donc ce sont des substances qui interagissent avec le fonctionnement du cerveau, et le système dopaminergique, sérotoninergique, etc. Donc le système d'équilibre du cerveau, finalement, qui est le but de l'usage du cannabis, c'est la recherche de bien-être, d'euphorie, et c'est pour ça que les gens en consomment.
Oui, voilà. Donc quels sont les effets du cannabis sur notre corps ?
Alors, il y a différents effets. Donc, il y a d'abord les effets recherchés. Donc, l'effet recherché habituel, c'est l'effet de bien-être, en fait. C'est l'effet de plaisir, l'effet d'euphorie. Donc, ça, c'est l'effet plutôt festif. Et puis, en fonction des consommateurs, il y a d'autres effets qui sont recherchés, donc qui sont extrêmement nombreux, en fait. Des effets antidépresseurs, par exemple, des effets tranquillisants, des effets contre l'impulsivité, par exemple. L'effet somnifère est bien connu aussi. Beaucoup de gens fument du cannabis pour dormir le soir, tout simplement. Mais là, on arrive dans des effets plutôt thérapeutiques. Il y a un usage de cannabis extrêmement variable, qui va d'un usage récréatif, festif, à un usage autothérapeutique et qui peut aller jusqu'à un usage addictif, c'est-à-dire que, où la personne est dépendante du cannabis. C'est-à-dire que la dépendance au cannabis existe aussi, hein, comme pour beaucoup de drogues, de substances psychoactives.
Donc le cannabis présente une certaine toxicité. Quand, par exemple, quand on fume du cannabis, quelle est la différence avec une cigarette ? Est-ce plus toxique ?
Pour le cannabis, on définit un certain nombre d'effets, hein. Donc il y a l'effet aigu, l'effet d'ivresse qui est c'est l'effet recherché en fait, hein. Donc l'effet d'ivresse peut avoir des effets négatifs. Après il y a ce qu'on appelle l'usage nocif pour la santé. Donc le cannabis comme l'alcool ou le tabac a des effets nocifs pour la santé, donc tout à fait comparable au tabac, voire plus que le tabac, parce que contrairement au tabac où quand même les fabricants essayent d'enlever tout ce qui est nocif, le cannabis évidemment n'est pas contrôlé, hein. Donc il y a un certain nombre d'effets nocifs pour la santé comme pour le tabac, mais peut-être un peu plus grave, c'est-à-dire que c'est tous les effets sur les voies respiratoires, hein, donc les insuffisances respiratoires, les infections, toutes les possibilités de cancer respiratoire, donc ça va du cancer de la bouche jusqu'au cancer des poumons, etc. Il y a des effets cardiovasculaires aussi, hein. On a repéré par exemple qu'un certain nombre de personnes qui avaient fait des infarctus chez les jeunes, c'était très souvent lié à l'usage de cannabis par exemple. Donc ça, ce sont des effets sur la santé physique qui sont importants certes, mais relativement marginaux. C'est-à-dire que le cannabis n'est pas une drogue destructrice du cerveau par exemple. C'est-à-dire que très souvent on dit voilà, le cannabis bousille les neurones. Donc ça, c'est faux, hein. Le cannabis, c'est une action sur le cerveau, mais il suffit d'arrêter l'usage de cannabis pour que le cerveau retrouve toutes ses capacités. Je crois que le principal problème du cannabis, en fait, c'est son effet psychotrope, c'est-à-dire que c'est un effet assez long dans le temps. Donc une personne qui a un usage régulier de cannabis a un fonctionnement du cerveau ralenti. Pour résumer un petit peu l'effet du cannabis. C'est-à-dire que le cannabis agit de façon extrêmement significative sur la mémoire, par exemple. Hein, aussi bien retenir une information que d'aller chercher une information pour l'utiliser. Donc là, on voit l'effet pratique du cannabis. Hein, c'est l'effet sur la scolarité, sur les études. Hein, c'est-à-dire qu'un usager extrêmement régulier, quotidien, par exemple, de cannabis, va forcément nuire à ses études. Donc bon, on pourrait me dire qu'il y a des gens qui réussissent tout à fait leurs études alors qu'ils fument. Effectivement, mais ce sont des personnes qui ont peut-être suffisamment de moyens intellectuels, cognitifs, pour faire face. Et donc, la diminution des moyens cognitifs ne nuit pas aux études, mais les études qu'on a pu faire sur les fumeurs de cannabis et les non-fumeurs montrent, hein, qu'il y a quand même un effet assez négatif sur les capacités intellectuelles. C'est-à-dire sur le raisonnement logico-mathématique, par exemple, sur les capacités aussi praxiques, c'est-à-dire que les lycéens, les étudiants qui sont en lycée professionnel, il y a une diminution de la finesse des mouvements, par exemple, hein, sous l'effet de l'ivresse. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que le cannabis est dangereux pour la conduite, entre parenthèses. Hein, c'est-à-dire que effectivement, il y a une perte de notion du temps, de l'espace, de la distance, une perte des mouvements fins. Donc c'est autour, voilà, de ces diminutions pratiques et intellectuelles que se situent les effets les plus nocifs du cannabis.
Mais comment le THC agit sur le cerveau, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ?
Disons que l'effet est assez prolongé dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'ivresse qui dure quelques heures, mais il y a un effet beaucoup plus prolongé sur la capacité intellectuelle et notamment la mémoire. Donc ça agit vraiment sur le système de mémoire. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler aux étudiants, hein, que cet effet sur la mémoire est probablement l'effet le plus nocif du cannabis.
Je voulais rajouter effectivement qu'il y a ces effets-là sur les aspects cognitifs, mais il y a aussi tout le phénomène motivationnel auquel aussi peut conduire une consommation plus ou moins régulière. Et donc effectivement, je crois que c'est un des freins, enfin en tout cas ce qui est indiqué là, enfin, ce qui inquiète beaucoup les pouvoirs publics, c'est effectivement des consommations qui commencent de plus en plus tôt chez les jeunes usagers et qui a pour effet quand même de beaucoup effectivement agir sur la capacité de créer aussi d'un certain nombre de jeunes et de s'investir dans des projets qui soient scolaires ou autres.
L'effet amotivationnel, hein, pour parler de façon plus triviale, c'est le je m'en foutisme en fait. C'est-à-dire plus rien à foutre de rien, puisque l'effet du cannabis, c'est de vivre dans l'instant. C'est-à-dire que pas de passé, pas d'avenir, donc pas de projection dans l'avenir ou peu de projection dans l'avenir, ce qui fait que la personne devient aquaboniste finalement. À quoi bon se projeter dans l'avenir ? À quoi bon agir ? Donc il y a une vraie perte de la volonté, aussi liée en partie à une perte de la concentration et de l'attention.
Outre l'impact sur notre cerveau, est-ce que le cannabis peut influencer notre comportement ?
Effectivement, le cannabis va forcément influencer notre comportement. Comme on l'indiquait tout à l'heure, il y a des effets quand même sur la manière d'investir, hein, les choses de la vie, là, enfin, ses études, les relations aux autres. Donc suivant effectivement l'usage qu'on va avoir, cet effet sur les comportements va être plus ou moins important. Donc c'est effectivement des éléments à souligner.
C'est l'effet des inhibiteurs de l'ivresse, hein. Comme l'alcool, le cannabis désinhibe, donc effectivement peut... Bon, la plupart du temps, ça rend passif. Hein. Autant l'alcool peut rendre agressif, par exemple, hein, avoir le vin mauvais, tout ça, le cannabis rend plutôt passif, mais peut y avoir des montées d'impulsivité avec le cannabis. Bon, un effet très classique du cannabis, c'est l'effet parano, entre guillemets, c'est-à-dire l'impression qu'on me regarde, on me juge de l'extérieur, donc en réaction, la personne peut être très très réactive dans ses effets parano, par exemple. Donc, effectivement, oui, il y a des troubles du comportement liés à l'ivresse cannabis, hein, et non pas à l'usage régulier, mais sous ivresse, hein, c'est-à-dire que la vision de soi, la vision des autres, la vision du monde change, évidemment, hein, c'est l'effet recherché, mais peut y avoir des effets paradoxaux, hein, d'impulsivité, de violence, sous l'effet du cannabis.
Et à quel moment devient-on dépendant ? Y a-t-il des signes avant-coureurs ?
Donc un certain nombre de personnes usagées de cannabis sont dépendantes. Hein. Si vous voulez, on peut comparer le cannabis à l'alcool. C'est-à-dire que l'énorme majorité des usagers de cannabis, comme des usagers d'alcool, ne sont pas dépendants. Hein. Il peut y avoir un usage tout à fait récréatif, hein, comme l'alcool, un usage nocif pour la santé, de l'abus, de l'excès, et au bout du compte, il peut y avoir de la dépendance. Donc on considère... à peu près 10-15% des usagers réguliers de cannabis sont dépendants. Donc la dépendance est très simple, hein. Bon, il y a plein de définitions, mais enfin il y en a une qui est très vite compréhensible, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire que je veux arrêter, j'y arrive pas. Voilà. C'est une définition descriptive en fait.
Et je suppose que c'est souvent lié aussi à une dépendance au tabac ?
Le cannabis, l'usage est lié au tabac. Hein. Enfin, il y a peu d'usages hors tabac. Enfin, il y a des usages, les space cakes, les décoctions, etc. Mais 99% d'usagers de cannabis le fument. Ou on en usage en banque quand même. Mais bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer la dépendance au tabac de celle au cannabis. En fait, tout usager de cannabis est aussi dépendant. Enfin, tout dépendant du cannabis est dépendant du tabac aussi, évidemment.
To be gazed upon as it slips away. Seething limbs all stick together. When a firmer hand would serve you better. Cause the streets you walk are unforgiving.
C'était The Laser Society avec A Softer Voice Takes Longer Hearing. Nous sommes de retour sur Enjeux de Santé où on parle cannabis avec la psychologue Corinne Daniel et le psychiatre Philippe Leferrand. Le cannabis est une drogue et sa consommation peut entraîner une dépendance. Heureusement, il est possible d'en guérir. Mais quels moyens existent pour soigner une dépendance au cannabis ?
Comment peut-on soigner ? On peut déjà effectivement venir déjà rencontrer un professionnel pour évaluer son usage, effectivement repérer peut-être les effets que cet usage a sur la vie de la personne.
Alors, le cannabis, c'est comme les autres drogues en fait. C'est-à-dire qu'il y a une dimension bien classique en médecine biopsychosociale. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a l'action de la substance sur l'organisme, sur le cerveau. La personnalité de la personne qui en fait usage, donc selon qu'elle est en bonne santé, en pleine forme ou inversement en mal-être, en déprime, voire en dépression, et puis le contexte. Donc c'est vraiment l'interaction de ces trois dimensions qui va faire la dépendance. Donc inversement, la prise en charge de la dépendance tient compte de ces trois dimensions, hein, donc de l'ancienneté de l'usage. Donc il y a toute une analyse en fait à faire du phénomène pour la personne, qui est d'ailleurs l'objet des consultations jeunes consommateurs, hein, du pôle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une analyse fine de la situation à faire, et en fonction de cette analyse, il y a des stratégies thérapeutiques qui peuvent être mises en place, mais qui tiennent compte à la fois de la personne, de son contexte de vie, en fait.
Effectivement, on va faire une évaluation un peu de l'usage, du contexte dans lequel il a commencé. Très souvent, les jeunes n'ont pas, enfin, les personnes qui consomment n'ont pas d'emblée un usage régulier. Il est souvent extrêmement festif dans un premier temps. Et donc, effectivement, c'est toute cette évaluation-là. Est-ce qu'il y a eu effectivement un événement de vie ? Est-ce qu'il y a effectivement chez cette personne-là des tendances anxieuses, des tendances dépressives ? Est-ce qu'il y a une histoire familiale, effectivement, qui peut expliquer peut-être effectivement qu'on ait eu recours et besoin de trouver ces effets psychotropes du cannabis ? Donc c'est toute cette évaluation globale qui va se faire au cours de la rencontre qu'on va effectivement faire dans le cadre de ces consultations jeunes consommateurs. Hein. Donc effectivement le pôle addiction ici sur le site même de l'Envol, donc au 4 boulevard de Strasbourg, dispose de consultations à destination de personnes consommatrices. Il y a également un temps de permanence que j'assure moi-même et une de mes collègues, donc infirmière, sur le point accueil écoute jeune du CRIJ à Rennes, donc qui est le 4 bis cours des Alliés, qui pour un certain nombre est connu déjà pour d'autres. D'autres actions.
Donc effectivement, il y a des lieux de consultation sur toute la Bretagne. Hein. Donc le lieu le plus important, c'est probablement Rennes, mais il y a aussi Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc. Et puis même sur le département, il y a Vitré, Saint-Malo. Donc il y a un certain nombre de lieux où les usagers de cannabis peuvent consulter. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les problèmes liés au cannabis ne sont pas que des problèmes de santé. Une chose quand même est à rappeler, c'est que le cannabis est interdit. Donc l'usage, la revente, etc. peuvent poser des problèmes, hein, des problèmes de justice, hein, des problèmes de poursuite. Et ces problèmes de poursuite judiciaire impactent aussi finalement hein, la vie de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux aussi moraux, hein, voire philosophiques autour de l'usage de cannabis. Hein. C'est-à-dire que l'implicite de la demande de soins des autorités, des parents, c'est quand même que c'est mal de se droguer. Voilà. Donc il y a aussi tout un travail autour de l'ivresse en fait, et de l'ivresse avec des substances interdites. Voilà.
On peut également intervenir envers une personne de notre entourage, par exemple, qui aurait des problèmes de consommation de cannabis, et comment nous, on peut venir en aide à ces personnes-là.
Effectivement, les consultations jeunes consommateurs ne s'adressent pas qu'aux usagers, hein, elles peuvent aussi accueillir des personnes de l'entourage de quelqu'un qui, effectivement, serait en difficulté dans ses consommations. Donc peut-être déjà, effectivement, pouvoir faire une évaluation un petit peu de la situation, voir de quelle manière, effectivement, peut-être alerter cette personne, sur quoi, effectivement, elle peut, on peut la mobiliser. Donc ça peut être effectivement déjà une démarche que quelqu'un de son entourage peut faire.
Oui, l'intervention auprès de l'entourage est très très importante hein, pour le cannabis, en particulier pour les jeunes, les mineurs. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'un mineur, notamment, consulte spontanément. En général, c'est son entourage qui s'inquiète. Donc le travail avec l'entourage est primordial, hein, évidemment, autour de l'usage de cannabis. Donc il y a un travail un petit peu de guidance de l'entourage. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire avec l'entourage, c'est surtout d'éviter deux positions extrêmes. C'est « Oh là là, mon fils se drogue, par exemple, c'est affreux, c'est un drogué, etc. » Donc c'est une position qui peut être extrême, c'est-à-dire qu'un usage irrégulier de temps en temps ne pose pas forcément un problème majeur en termes de santé, par exemple. Donc la dramatisation peut être nuisible à la personne. Donc notre travail auprès de l'entourage, c'est d'éviter la dramatisation. Ou inversement, c'est aussi la banalisation qui peut être un problème. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un discours, de toute façon, maintenant tout le monde fume, c'est pas grave. Il peut y avoir même des parents qui disent, moi-même j'ai fumé, ça n'a pas eu de conséquences sur ma vie, etc. Donc notre travail de guidance auprès de l'entourage, c'est un travail autour d'un juste point de vue aussi de l'entourage par rapport à ce qui existe pour le jeune en question. C'est-à-dire que ce travail d'information, hein, d'éducation, de guidance, parfois peut être suffisant en fait pour des parents perdus autour de l'usage de l'adolescent. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément nécessité de consultation spécialisée. Hein, c'est-à-dire qu'un usage même excessif chez un adolescent, quand le contexte n'est pas inquiétant, quand la scolarité suit son cours, une évaluation simple, une guidance pendant quelques semaines ou des consultations brèves peuvent être tout à fait suffisantes pour résoudre le problème.
Oui, travailler auprès des parents est important et c'est vrai que parfois l'usage d'un jeune vient aussi dire quelque chose de sa relation à son entourage, à ses parents et effectivement on est amené à parfois à travailler avec les parents sur les modalités de ces relations-là, alors qu'ils peuvent être parfois effectivement une difficulté chez certains parents à voir leur enfant grandir, à voir leur enfant effectivement s'éloigner, en tout cas ne plus effectivement être dans le même lien vis-à-vis d'eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est travaillé lors de ces entretiens familiaux.
Et ici, à l'Envol, c'est ouvert à tous ?
Les consultations sont effectivement ouvertes à tous. Hein, donc elles sont gratuites et elles peuvent être également anonymes hein, si la personne le demande. Donc effectivement, sur le site de l'Envol 4 boulevard de Strasbourg, c'est plutôt sur rendez-vous. Sur le point accueil écoute jeune, donc du CRIJ, le mercredi après-midi entre 14 et 18 heures, ce sont des permanences. Donc là, on y vient sans prise de rendez-vous préalable.
Avez-vous vu une évolution dans la consommation de cannabis chez les jeunes ces dernières années ?
L'évolution, en fait, c'est la concentration en THC des substances proposées. C'est-à-dire que ce qui est proposé aux consommateurs aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qui était proposé il y a 20 ans, par exemple. Donc on a des produits beaucoup plus forts. Hein. Si vous voulez, c'est comme si on était passé de la bière à la vodka, hein, quand même. Donc il y a des produits beaucoup plus forts. Probablement, apparemment, il y a l'usage collectif aurait diminué, c'est-à-dire qu'il y aurait plutôt moins d'usage. Il y a une baisse dans la courbe de l'usage depuis quelques années, avec un pic il y a 4-5 ans, je pense. Alors qu'il y a eu une augmentation régulière pendant 20 ans, un plateau il y a 4-5 ans, une tendance à diminuer en ce moment. Mais ça, c'est en termes d'épidémiologie, en termes de consommation collective. Ce qu'on observe maintenant, c'est des jeunes de plus en plus en déshérence, en difficulté, en souffrance psychologique, en fait, qui ont un usage extrêmement abusif, voire extrêmement nocif. On voit régulièrement des jeunes qui peuvent fumer 10-15 bangs par jour, par exemple, et qui sont donc en état d'ivresse permanente. Ça, quand le premier bang, c'est au réveil le matin, et le dernier bang, le soir avant de se coucher, c'est évident que la personne est absente en permanence, et c'est un véritable problème de santé à ce moment-là.
Y a-t-il une forte consommation de cannabis en Bretagne ?
Alors, c'est ce qu'on observe dans les observations d'épidémiologie. Hein. La Bretagne est d'une des régions des plus consommatrices en France. Hein. Alors, il y a peut-être un lien avec la baisse très importante de la consommation d'alcool, hein, comme s'il y avait eu un effet de balance, effectivement. Donc, la Bretagne, oui, est une région très consommatrice de cannabis, et Rennes en particulier.
Je voulais vous faire réagir sur une actualité. Au début de l'année, le ministère de la Santé a autorisé la mise sur le marché d'un médicament à base de cannabis, le Sanivex. Est-on devant une légalisation prochaine du cannabis thérapeutique en France ?
Je pourrais répondre oui. Enfin bon, on s'agite beaucoup autour du cannabis thérapeutique. Effectivement, le cannabis, le THC, a des effets thérapeutiques sur un certain nombre de maladies. Mais il ne s'agit pas de distribuer des pétards ou des bangs aux personnes qui ont ces maladies. Ce sera sous forme de médicaments, de comprimés, de gélules. Hein. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec l'usage festif ou récréatif de cannabis. Donc, probablement qu'il y aura une évolution de la politique sanitaire autour de médicaments à base de cannabis. Mais c'est tout, quoi. On est très, très loin d'une dépénalisation, d'une légalisation de l'usage de cannabis.
Oui, et du coup, que penser également de la légalisation du cannabis dans plusieurs États aux États-Unis.
Alors, je ne sais pas si c'est une légalisation. Je crois qu'il faut bien distinguer dépénalisation et légalisation. Donc, la dépénalisation, hein, c'est ne pas poursuivre les gens qui en font usage. Donc, dans la plupart des pays européens, il y a une dépénalisation de l'usage de cannabis. Hein. La France et un certain nombre d'autres pays européens sont des pays extrêmement rigides sur ce sujet. Hein. Donc, l'usage est interdit. Hein. L'usage même peut amener à des poursuites, voire des incarcérations, en théorie. La légalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que la légalisation, en fait, c'est une convention internationale. Donc, je crois qu'il y a quelques pays qui ont commencé à légaliser. Je crois que l'Uruguay, quelques États américains aussi. Mais ça reste quand même exceptionnel. Quoi. Je pense pas, il n'y a pas encore de pays européen qui est légalisé. Ce que je voudrais dire, c'est que l'usage de cannabis n'est pas qu'un problème de médecine. Ce qui concerne la médecine, et je tiens à le rappeler, c'est l'usage nocif pour la santé et la dépendance. L'usage en soi n'est pas forcément un problème médical. C'est un problème collectif, hein, qui concerne toute la communauté. Ce qui veut dire aussi que toute intervention n'est pas forcément médicale. Ça peut être une intervention éducative, ça peut être une intervention judiciaire aussi. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup, nous voyons beaucoup de jeunes qui nous sont adressés sous contrainte de justice. Hein. Ils ont une obligation de soins, une injonction thérapeutique. Et ce que nous observons, c'est qu'un certain nombre de ces jeunes ne relèvent pas forcément d'une pratique médicale. Donc nous, ce que nous faisons, c'est on évalue évidemment leur usage, hein, voir si nous sommes concernés par leur usage. Mais tout usage ne relève pas d'une pratique médicale, évidemment. Je tiens à rappeler quand même que l'énorme majorité des jeunes usagers de cannabis, on est quand même dans un usage non médical, voilà, qui ne concerne pas la médecine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance, même si ces jeunes peuvent nuire à leurs études, par exemple. Hein. Je crois que le principal problème du cannabis chez les adolescents, chez les lycéens et les étudiants, c'est quand même une nuisance à leurs études. Voilà. Ce qui peut être un vrai problème, puisque la vie se joue quand même, enfin l'avenir professionnel se joue quand même entre 16 et 24 ans. Et on peut tout à fait louper le coche à cause du cannabis à ce moment-là.
Oui, voilà, vous parliez d'effets sur la concentration, sur la mémoire, mais ces effets sont-ils irréversibles ?
Donc en termes neurobiologiques, disons que ça c'est quelque chose qui est certain, hein, c'est-à-dire que pendant très très longtemps les effets sont réversibles. C'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, contrairement à l'alcool qui a un effet destructeur sur le cerveau, le cannabis n'a pas cet effet destructeur des neurones en tout cas. Ça agit sur les synapses, hein, c'est une modification synaptique donc de la circulation, du fonctionnement du cerveau. C'est un effet fonctionnel, ça ralentit le cerveau en gros, mais il suffit d'arrêter le cannabis pour que le cerveau reprenne toutes ses capacités.
Oui, donc on peut entendre par exemple que le cannabis rend schizophrène, est-ce vrai ?
Alors, il faudrait plutôt effectivement repérer que chez les schizophrènes, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui fument, un grand pourcentage effectivement de fumeurs, mais ce n'est pas effectivement le cannabis forcément qui rend schizophrène. La schizophrénie effectivement se manifeste très souvent par des phases d'angoisse importantes et très souvent la personne cherche d'abord à calmer effectivement cette souffrance-là psychique et recherche donc dans les effets du cannabis cet effet anxiolytique. Donc c'est vrai que par contre, ce qui se pose un petit peu comme question, c'est que chez un certain nombre de jeunes qui déclenchent cette maladie, on n'est pas sûr effectivement que l'usage n'ait pas effectivement été un élément qui ait permis ce déclenchement-là de la maladie. Mais on ne peut pas effectivement affirmer que le cannabis rend schizophrène, ça serait un lien qui serait très, très, trop rapidement fait.
C'est la fin d'Enjeu de Santé, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le cannabis ainsi que les coordonnées des différents centres d'aide sur radiocampusrennes.fr. Vous pouvez également contacter Drogue Info Service par téléphone au 0800 23 13 13 et n'oubliez pas que les émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio Campus Rennes. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.